Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Vous nous avez rejoint pour le journal des idées sur France Culture. À l'approche du week-end, pour ceux d'entre nous, Jacques, qui n'ont pas la chance de pouvoir se mettre au vert, vous nous proposez une petite balade en nature, mi-figue, mi-raisin.
Oui, bon, à condition, Clara, d'éviter la neige, évidemment. Ah oui, la dernière livraison de la revue Carnet de Science publie un dossier sur les pouvoirs de la science en matière d'environnement. Ils sont d'abord évidemment ceux de l'expertise, mais Grégory Fléchet souligne la distance entre celle-ci et l'action publique. À propos du GIEC, il rappelle que les objectifs de réduction de gaz à effet de serre ne découlent pas directement des rapports scientifiques qu'il publie, mais résultent de longs échanges et de compromis avec les gouvernements, d'où l'intérêt de mobiliser l'opinion pour faire pression sur les politiques. Aujourd'hui, l'expertise scientifique sur le climat s'étend au milieu océanique, longtemps demeuré dans l'angle mort et oublié des négociations internationales, alors même qu'il constitue un maillon essentiel de sa régulation et que 90% de la chaleur résultant de nos émissions de gaz à effet de serre y est stockée. Au-delà du constat, les scientifiques ouvrent des pistes pour des solutions. Dans le GIR du Pacifique Nord, ce continent marin où tourbillonnent les plastiques, un projet vise à déployer des barrières flottantes pour en retirer les déchets. Mais elles ne collectent que les gros plastiques de surface et pas les particules plus au fond qui contaminent la chaîne alimentaire. Et la petite quantité récupérée est vite remplacée par les nouveaux déchets. Réduire le CO2 atmosphérique est également au programme des chercheurs. Un projet du CNRS vise ainsi, en favorisant certaines pratiques agricoles, à accroître la séquestration du carbone dans les 40 premiers centimètres de profondeur du sol. Un autre projet à long terme étudie la possibilité de recycler le CO2 pour fabriquer du carburant. Le droit à l'environnement, donc la science et la connaissance dans ce dossier de la revue Carnet de Science. Le droit de l'environnement est également à la manœuvre, même si la notion de préjudice écologique introduite en France dans la loi de 2016 sur la biodiversité, qui est utile pour sanctionner les dommages ponctuels en évaluant par exemple la pollution d'une rivière, peine à désigner les responsables s'agissant de problèmes globaux comme la question climatique où sont en cause de multiples facteurs et responsabilités. L'économiste Gaël Giraud dénonce la privatisation du monde et en appelle à la notion de bien commun. Si l'on continue à considérer les océans comme une ressource privée, plus aucun poisson comestible n'y ondoiera d'ici à 2050. Il juge indispensable la réduction des inégalités entre pays. L'Américain émet en moyenne chaque année plus de 15 tonnes de CO2, un Français 5 tonnes et un Tchadien moins de 2 tonnes, et ce sont les populations les plus défavorisées qui sont les premières victimes du réchauffement. Mais il y a aussi les inégalités à l'intérieur des frontières, car les émissions de CO2 augmentent avec le revenu. Et il estime qu'il n'y aura pas de transition énergétique sans contrepartie sociale significative, sinon les gouvernements s'exposeront à des mobilisations majeures. Les banques sont également montrées du doigt. D'après Oxfam, pour 1 euro de financement des énergies renouvelables, elle prête encore 7 euros aux fossiles. Quoi qu'il en soit, le coût de la protection de la nature reste beaucoup plus faible que celui de sa réhabilitation. C'est pourquoi toutes les contributions insistent sur le rôle de l'opinion publique et sur l'ouverture des imaginaires aux autres formes de vie dont nous dépendons, ainsi qu'aux innombrables interactions entre les êtres vivants, les roches, le sol, les océans, l'atmosphère. C'est le programme que s'est donné la belle revue Relief. Après les pôles, le ciel, la mer ou les rivages, les sommets et les fleuves, sa dernière livraison porte sur les lacs, élément essentiel de la biodiversité. Gilles Boeuf décrit la physiologie et les pathologies de ces riches écosystèmes à la faune abondante et variée, des libellules aux carpes, brochets, cendres, perches, anguilles. La flore typique dessine un paysage de roseaux, nénuphars ou lentilles d'eau. Il y a aussi une culture du lac, illustrée par un habitat spécifique, lacustre, une population qui se dit attachée à l'élément et se définit par rapport à lui, lémanique, baïkalien, voltaïque. Mais si depuis Rousseau, le lac incite à la rêverie, sa nature peut être redoutable. Michel Mébec est allé remonter le temps en Auvergne pour retrouver les traces du phénomène qui a causé, il y a 30 ans, la catastrophe du lac Nyos au Cameroun. Un dégazage massif et mortel avec un jet d'au moins 50 mètres, une trombe lacustre générant éclairs et tonnerres, les eaux rougies par les hydroxydes de fer provenant des profondeurs, des vapeurs lourdes et des fumées toxiques. À l'époque, les spécialistes l'avaient baptisé éruption liminique et considéré comme un phénomène complètement inédit. Mais en étudiant les textes anciens concernant le lac Pavin en Auvergne, le chercheur a compris pourquoi il inspirait le respect et le conseil de sa grand-mère de ne jamais y jeter de pierre.